francesinter.com.
Salut à tous les AMG, à tous les irradiés du monde. Eh oui, le nucléaire français était le nucléaire le plus sûr du monde. Bah, ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Marcoule, incident nucléaire, un four qui explose, peut-être une fuite radioactive. Bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. De toute façon, c'est comme les banques françaises, ça a été soumis à des stress tests. Il n'y a pas de problème, les tremblements de terre, on les attend. C'était Christophe de Noisy-le-Sec, voilà, salut.
France Inter fait 18 heures de programme en direct de New York pour commémorer les attentats du 11 septembre. Alors moi j'espère que dans 2 ans, le 11 septembre 2013, France Inter fera 18 heures de programme au Chili pour commémorer les 40 ans de l'assassinat du camarade Allende. Et pour parler un petit peu des démocraties face au terrorisme néolibéral. Voilà, c'était Antoine de Grenoble.
Hé Daniel, j'ai un scoop. Je le tiens de mon bof qui connaît un mec qui fréquente Philippe Val. Il paraît qu'après l'énorme succès des 18 heures de France Inter sur la démocratie face au terrorisme, il prévoit 24 heures non-stop sur le thème « La démocratie face à l'hypercapitalisme ». Si, si, ouais, il serait mis à contribution Emmanuel Todd pour son livre « Après la démocratie », Chomsky pour la fabrique de l'opinion, Howard Zinn pour désobéissance civile et démocratie, même Serge Halimi pour l'opinion, ça se travaille, et Thomas Coutreau pour démocratie contre capitalisme, Jean Ziegler bien sûr pour les nouveaux maîtres du monde, et Hervé Kempf, comment les riches détruisent la planète, et la dictature du profit aussi de Viviane Forrester, et propagande silencieuse de Ignacio Ramonet, et surveillance électronique planétaire de Duncan Campbell, et même Jacques Sapir pour les économistes contre la démocratie. Ah, arrête !
Mais non Daniel, c'est pas vrai, tout est faux. C'est mon mari qui délire, il prend ses désirs pour la réalité. Allez Jean, viens te coucher, il est déjà très tard et demain tu travailles.
Bonjour, voilà, ce week-end, c'est les 10 ans d'un attentat terroriste, mais il y a aussi des enfants qui sont nés ce jour-là, dont ma fille, donc ben, bon anniversaire à tous ceux-là, qui ont 10 ans ce week-end. C'était Cécile à Caen.
C'est Gaël, en fait, dans le Jura, moi je suis artisan, commerçant, et puis en fait je suis en train de rentrer chez moi et puis de regarder LCI, et bizarrement, je tombe sur une émission où il y a une meuf de HSBC, que des banquiers en fait, que des banquiers, des cabinets d'audit qui sont en train de débattre en fait sur la bonne volonté des gens de vivre ou pas vivre bien la crise. Et mais qu'est-ce qu'ils foutent ces gens-là quoi, sans déconner. Ils sont sur Terre des fois ou nous on travaille. Ah je sais pas, moi je me pose la question.
Eh oh les amis. Oh, les amis de Lille, alors, les vacances c'est fini, la braderie, bon bah c'est passé, alors ce soir, au café L'Imaginaire, à 20h, eh bien, retrouvons-nous très nombreux, voilà, dans le vieux Lille, allez, n'oubliez pas les amis.
Ah, je voulais lui téléphoner, et je voulais lui dire absolument qu'il fasse du libre.
Du logiciel libre.
Et qu'à France Inter aussi. Mais toute la maison ronde se mette sur Linux. Ah ben, je vous propose de faire une émission par semaine, ça dépend si c'est...
Une chronique, quoi.
Une chronique, voilà. Tout
d'éducation
simplement.
Populaire pour le logiciel libre.
D'éducation populaire pour le logiciel libre. C'est simple. Je fais enseignant...
T'enseignes la liberté, quoi.
J'enseigne la liberté.
Tu formes les gens à se libérer du monopole ou du racket.
Du racket, ah bah oui. Attends.
Illégal, en plus.
Les délinquants, les voleurs, les escrocs, les rapaces, les avides... C'est pas possible.
Le Front de Libération des ordinateurs est réuni. Libérer les ordinateurs, libérer la technologie.
Ça fait des années, oui on peut vraiment dire des années, chers AMG, que vous laissez des messages en répondeur de la basse, j'y suis, que vous nous interpellez un peu partout en disant « Mais il faut absolument parler du libre, parler des logiciels libres, parler de Linux, parler de tout ça, parce que Microsoft, c'est le grand méchant loup !» Alors cette fois-ci, on y est allé. Enfin, plutôt, c'est Antoine Chao qui y est allé. Et vous allez voir ce que ça a donné. On va vous défendre, chers consommateurs, chers internautes, chers utilisateurs d'ordinateurs. Avec un mot, cependant, très ambigu. très très ambigu. Le mot libre, qu'est-ce que c'est que ce libre-là? Qu'est-ce que c'est que cette liberté? Vous savez, liberté, égalité, fraternité, là, il y a ce mot liberté, là. Il a plusieurs sens, ce mot liberté. Surtout aujourd'hui, libre, liberté d'entreprendre, liberté de s'enrichir en marchant sur la gueule des autres, ou bien liberté d'expression, liberté de fraterniser, liberté d'aller et de venir, liberté de parler comme on en a envie. C'est pas tout à fait la même chose et c'est peut-être ça l'ambiguïté du libre, et c'est peut-être ça, cette ambiguïté, qui nous a fait si longtemps retarder ce sujet-là. Et bon, on l'aborde aujourd'hui courageusement avec vous jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, et salut à tous les VMG, c'est Sébastien de Lyon. Hier, jeudi 8 septembre 2011, le président de l'autorité des marchés financiers, le principal organisme de régulation financière en France, était interrogé sur BFM Business. Il s'exprimait entre autres sur la crise financière, la situation de la Grèce. C'était la première fois que je l'entendais s'exprimer et j'ai été tellement surpris que j'ai voulu vous appeler. Alors voilà ce que dit ce monsieur. J'ai enregistré.
Les Grecs doivent faire ce qu'ils ont promis de faire. S'ils ne le font pas, vous avez deux organismes qui doivent intervenir et dire ce qui doit être fait, c'est la Commission européenne et le Fonds monétaire international qui doivent dire exactement ce qui doit être fait et qui doivent donner la marche à suivre.
Et si ce n'est pas fait, à part ça qu'il
apporte ? Si ce n'est pas fait, il y aura un problème de restructuration qui se posera.
Ouais.
Mais moi, ce que je dis, il faut aller au bout du plan du 21 juillet.
D'accord. Mis sous tutelle, c'est possible d'un pays européen ?
Oui, s'il n'y a pas d'autres mesures, il faudra le faire.
Il faudra mettre sous tutelle la Grèce.
Il faudra le faire.
Très important là, ce que vous dites.
Mettre sous tutelle, voilà, le mot est lâché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gouvernement grec n'avance pas comme la Commission européenne ou le FMI le souhaitent, alors la solution envisagée par notre régulateur en chef, c'est de prendre les commandes. Alors je pense que les citoyens grecs apprécieront, d'autant plus que cette notion de mise sous tutelle n'a aucun cadre juridique, mais peu importe, la Grèce, berceau de la démocratie, tarde à prendre des mesures d'austérité qu'on lui a imposées. Ils tardent à vendre leurs ports, leurs aéroports, la poste. Ils tardent à augmenter les taxes sur le gaz, le tabac, sur les cartes grises des voitures. Ils tardent à durcir les conditions d'accès aux allocations sociales, au chômage, à réduire le nombre de fonctionnaires de 20%, alors qu'on leur a gentiment demandé, et le président de l'AMF s'impatiente. Et puisque le problème semble venir du peuple, puisque les gouvernements élus démocratiquement n'arrivent pas à s'aligner sur les règles de la gouvernance européenne, M. Jean-Pierre Jouyet a trouvé la solution. Il suffit de gouverner à leur place.
Ouais, je voudrais dire un grand merci à Dany Bruet qui s'occupe du repère de la Bastille Sud de Marseille, parce que hier soir il a organisé dans le cadre du repère la projection du film de Pauline sur le plateau des Guillères du 14 et 15 mai dernier. Il s'appelle Plat de résistance. Et on s'est régalé. Il y avait une centaine de personnes, il y avait beaucoup d'émotions, les gens étaient à la fois émus, et c'est vrai qu'avec Dany, on s'est dit que toute l'énergie qu'on met à la fois sur les repères et sur qu'on fait dans le monde associatif, on est vraiment récompensé quand on passe des soirées comme ça, parce qu'une gamine de 19 ans qui nous a pratiquement mis la larme à l'œil à tous, c'était un bon moment. J'espère qu'il y en aura d'autres à l'Équitable Café ou ailleurs. Ciao vive, portez-vous bien, la lutte est vraiment belle.
Casse-toi, riche con.
Le hacker, à la base, c'est le bidouilleur. C'est la personne qui va trifouiller dans son ordinateur, dans ses programmes et tout ça. De nos jours, on assimile plus ça du piratage, alors que c'est totalement faux.
Alors là, c'est un petit établi avec fer à souder, des cartes informatiques, des cartes mères qui sont là, le ventre à l'air. Diffusez vos documents sous licence libre. Art, images, musique, texte, vidéo.
Ici, on est au Loop, un espace où des informaticiens, des passionnés d'électronique, des geeks de tout poil, finalement, se réunissent pour échanger, travailler.
Ah, c'est ce qu'on appelle un hackerspace, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Oh yeah, utilisateurs d'ordinateurs captifs, rejoignez le front de libération. Sus au logiciel propriétaire.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chavot. C'est là-bas et j'y suis sus au logiciel propriétaire. Flight number 2,
arriving from... Cité des sciences et de l'industrie au parc de la Villette à Paris. On est samedi et aujourd'hui, premier samedi du mois, c'est les samedis du libre. Tous les premiers samedis du mois, de 14h à 18h, une rencontre permet à toutes et à tous de découvrir l'informatique libre et d'échanger autour de ce sujet. L'informatique libre a pour but de protéger la liberté des utilisateurs et de partager la connaissance. Alors, au programme aujourd'hui, conseil et aide pour l'installation de Linux sur votre ordinateur. Voilà, c'est au Carrefour Numérique, ici au sous-sol de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, dans le 19e arrondissement.
Alors vous êtes comme moi, vous dites tiens, je vais m'acheter un ordinateur. Voilà, vous allez chez le marchand d'ordinateurs. Et voilà, votre choix se porte sur celui-là qui vous semble pas mal d'après ce qu'on vous a dit. Voilà, ce que vous ont dit les copains, ce que vous a dit le vendeur. Et puis ben, vous payez votre ordinateur. Alors il y a une ligne pour la facture de la machine. Et puis en dessous, il y a une autre ligne pour le logiciel. Alors c'est écrit Microsoft Windows ou bien Mac OS X, quelque chose comme ça, qui fait partie de la facture. Enfin, vous payez tout ça, puis vous rentrez chez vous, et puis vous mettez tout ça en route, et puis vous êtes content. Ça marche. Voilà. Eh bien, vous venez de vous faire racketter. oui, vous venez de vous faire racketter. Parce que ces logiciels, eh bien... on n'était pas du tout obligé de vous les vendre, c'était pas du tout indispensable. On aurait pu en mettre d'autres. Et depuis des années, il y a un mouvement qui s'oppose à, eh bien, à ces logiciels obligés. Et on appelle ça le racketticiel, non au racketticiel, au racket des logiciels. Ah oui, et c'est pas seulement ça l'histoire, c'est qu'il y a, on peut mettre d'autres logiciels sont possibles, d'autres logiciels qui permettent un autre usage, un autre état d'esprit. Les logiciels qu'on vous colle dans votre ordinateur, là, votre machine, comme on dit, que vous achetez très, très bravement, et vous êtes 95% sur cette planète à avoir ces logiciels-là, ils sont fermés. Ils sont fermés. Ils sont comme vous achetez un CD, vous achetez un disque, voilà, et il est enregistré, puis vous le passez, vous l'écoutez, vous êtes ravis. Et le logiciel libre, si j'ai bien tout compris, c'est comme si vous aviez la partition de la musique. C'est différent d'avoir la chose tout enregistrée et d'avoir la partition de la musique parce que vous avez les paroles, parce que vous avez la partition, les notes, les arrangements, et que vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Vous avez une liberté d'interprétation, et puis vous pouvez le jouer comme vous voulez. Vous pouvez le chantonner, le jouer avec une flûte ou avec un orchestre symphonique, si vous voulez, cette partition. Et oui, c'est tout à fait différent. Et vous pouvez l'enrichir, et vous pouvez... C'est la différence qu'il y a entre les deux. Et cette différence, elle est fondamentale. C'est la différence qu'il y a entre un produit fermé, obligé, et la liberté de créer, d'inventer, de partager. Ces deux points de vue tout à fait différents. Et cette opposition, elle est très ancienne. Alors bien sûr, vous avez compris, là-dedans, il y a les gentils et il y a les mauvais. Et nous, on est du côté des gentils, ça peut peut-être vous surprendre. C'est-à-dire du côté de ceux qui sont libres, le logiciel libre. Mais on va voir en suivant Antoine Chao que ce mot libre est bien ambigu. Ça fait quand même quelques années qu'on s'est fait avoir avec ce mot libre. Libre comme libéral, libre comme néolibéral, libre aussi comme libertaire, mais libre aussi comme libertarien. Attention à ce piège qui est dans ce mot libre. C'est notre sujet du jour. Jusqu'à 16h dans la base, si j'y suis. suce au logiciel propriétaire.
Tiens, Jacky, ben, j'ai reçu ton ordinateur.
Ouais, on l'a reçu.
Je sais pas sur quoi t'as appuyé, tout à l'heure tu l'as ouvert.
Il faut le mettre comme il faut.
T'es de faire OK?
Mais je sais pas.
On va faire OK. La dernière fois que votre ordinateur s'est mis en veille prolongée, il n'a plus répondu.
Voulez-vous empêcher votre ordinateur de se mettre en veille prolongée à l'avenir?
Ben oui.
Non.
Non.
C'est bon.
Cette petite entreprise de services informatiques ressemble à toutes les autres. Enfin, pas tout à fait, car ici, on propose aux clients non pas d'installer du Microsoft, mais le système alternatif gratuit d'exploitation, Linux.
RTBF, 13 février 2007.
C'est que Linux offre aujourd'hui tous les services de messagerie ou de bureautique. On peut télécharger des logiciels libres, comme ici OpenOffice, pour faire du traitement de texte, des présentations ou des feuilles de calcul, le tout pour 0€, 0 cents. Mais qu'en est-il de la qualité ?
Aujourd'hui, la plupart des experts estiment que ces systèmes sont non seulement au moins aussi performants, si pas plus performants et plus stables que leur équivalent de Microsoft, tout en ayant l'avantage d'être gratuit.
Partie des développeurs, Linux fait en tout cas son chemin parmi les altermondialistes, les étudiants et les administrations. Alors comment expliquer que 90% des PC sont encore équipés de produits Microsoft ?
Depuis tout le temps, Microsoft fait des abus de position dominante, que ce soit évidemment avec la préinstallation Windows, que ce soit avec le fait que Internet Explorer soit préinstallé dans Windows ou Media Player. Hein, donc effectivement, il y a abus de position de dominance, ça c'est clair.
Alors, un clic alternatif au clic très commercial de Microsoft, à vous de choisir finalement.
Alors, le carrefour du libre, c'est au sous-sol. Et à côté de la bibliothèque des sciences et de l'industrie, une bibliothèque d'histoire des sciences qui est très bien fournie. Et c'est ici qu'il y a le carrefour numérique.
Oui, vous êtes tout au bout, vous suivez l'affiche.
Accès libre, voilà, c'est ici. Alors voilà, c'est une grande pièce, il y a une cinquantaine de personnes là qui signent ici pour la plupart au libre. Alors il y a des ordinateurs un peu partout, chacun vient avec son ordinateur. J'imagine que la plupart ici des participants à cet atelier vont se libérer des griffes de Microsoft. Ou en tout cas, goûter la liberté. Alors, de quelle liberté s'agit-il ? La liberté d'entreprendre ou la liberté de partager les connaissances ? Je peux vous demander ce que vous venez faire ici ?
Faire une petite vérification de mon installation.
Donc vous êtes déjà, vous vous êtes libéré, vous, déjà ?
Pas vraiment.
C'est long de se libérer ?
Oh, il faut bien un an.
Ah, quand même ?
Ah oui.
Votre distribution n'est plus prise en charge.
Voilà,
ah oui, c'est un...
voilà le problème.
Attendez.
Voilà le problème, c'est qu'elle était tellement fan de Ubuntu qu'elle n'a jamais voulu changer pour aller voir une version supérieure.
Donc, et là... Ubuntu, c'est une distribution, c'est ce qu'on appelle
voilà.
Une distribution.
Une des distributions.
Libre, donc libre. En logiciel libre. Voilà.
Ah non, mais je dis jamais libre, parce que c'est évident, c'est libre.
C'est sous-entendu.
Tout le reste est propriétaire et payant.
Enfin, tous les autres, ça se compte sur les doigts d'une demi-main.
Comment ?
Ah, si, donc on n'a pas le droit de le citer, voilà, c'est...
Non.
De quoi tu parles ?
Faut pas citer.
D'accord. Alors vous êtes venu quand même avec votre unité centrale, dans un petit caddie, etc.
Ça fait très lourd.
Vous êtes motivé, quoi.
Et quand on achète un ordinateur chez un revendeur qui est tout installé et qu'on ne peut même pas réinstaller son système parce qu'on n'a plus de CD d'installation et qu'on fait quoi ? On n'a plus rien. On ne peut plus rien faire, on est complètement coincé.
Bon, j'espère que vous êtes content.
Yo-Boy, c'est ton nom, c'est ça ici.
C'est mon pseudonyme.
C'est ton pseudonyme, pseudonyme d'activiste, c'est ça, du net, du libre.
J'aime pas le mot activiste, c'est un peu trop fort.
Tu te caractérises comment
Passionné, tout simplement, passionné des logiciels libres, passionné de faire découvrir la philosophie du libre aux gens et puis de partager un peu ses connaissances. Donc moi, je suis Philippe Cortez, je suis secrétaire de l'association Ubuntu.fr, donc qui est l'association des utilisateurs francophones d'Ubuntu.
Une distribution libre.
Voilà, c'est le système d'exploitation libre basé sur Linux toujours, qui est le plus répandu actuellement parmi le grand public.
Alors, la philosophie du libre, alors c'est quoi?
C'est le principe de pouvoir utiliser ce qu'on veut, de pouvoir l'étudier, le modifier, de redistribuer ses modifications, de lier des relations avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde, avec des personnes qui sont à côté de chez soi. C'est vraiment cette idée de communauté, quoi. C'est une communauté dans le bon sens du terme.
Et donc, ça s'oppose à la brevetabilité, au mercantilisme? Ça s'oppose à quoi?
Ça s'oppose aux limitations qu'on nous impose. Donc avec les brevets par exemple, donc le fait qu'il y ait un brevet sur une technologie, ça limite les possibilités de développement des personnes, ça limite les possibilités d'étudier les technologies. C'est un peu comme quand vous achetez une voiture, vous n'auriez pas le droit d'ouvrir le capot pour voir ce qu'il y a de dessous, tout simplement. Les brevets, c'est ça, vous n'avez pas le droit d'ouvrir le capot pour voir comment est le moteur, de le démonter, de l'améliorer ou de partager sa modification. Tous les bidouilleurs savent ça en mécanique, ils le font très bien, ils peuvent partager. Et en informatique, on n'aurait pas le droit de faire ça, c'est pas normal. Donc le libre, c'est ça. On connaît tous Microsoft avec le système d'exploitation Windows, et plus tous les logiciels qui tournent autour comme Microsoft Office. Et ensuite, tous les logiciels qu'on peut acheter dans le commerce, comme Photoshop, pour les plus connus. Nous, on utilise des alternatives libres, donc qui sont tout aussi performantes, mais qui ont l'avantage de pouvoir être utilisées gratuitement, librement, de pouvoir être étudiées, modifiées. Vous pouvez contribuer à la traduction, vous pouvez contribuer à l'amélioration, vous pouvez faire ce que vous voulez avec.
D'accord. Alors, l'idée, c'est de promouvoir ces alternatives, mais il y a quand même un verrou. C'est-à-dire que toutes les machines, en général, sont vendues avec un système... propriétaire installé, donc avec le Microsoft, pour ce qui est des PC, il y a une mainmise, il y a un racket, on va dire, qu'on peut appeler ça un racket, c'est-à-dire Microsoft oblige de passer par son logiciel.
C'est ça. En France, on appelle ça la vente liée, c'est-à-dire acheter du matériel avec du logiciel préinstallé et ne pas pouvoir séparer les deux. Il y a beaucoup d'associations qui se battent contre ça. La plus connue, c'est Racketiciel, je crois.
Racketiciel,
oui. Donc c'est le fait de vous vendre du logiciel, ce que vous n'avez pas voulu. C'est ce qu'on appelle la vente liée, c'est ce que je disais, qui est normalement illégal, mais qui est couramment pratiquée. Donc il y a des associations qui se battent contre ça. Maintenant, il y a quand même quelques avancées. Les fabricants ont dû mettre en place des procédures de remboursement. Mais l'idéal, ce serait de pouvoir quand même choisir ce qu'on veut utiliser dès l'achat de la machine, tout simplement.
Et donc il existe des logiciels qui sont tout aussi capables, tout aussi pratiques,
tout aussi
fiables,
capable, voilà.
Si ce n'est plus.
Tout aussi fiables, même plus, vu que les logiciels libres sont beaucoup plus sécurisés que les logiciels comme Windows. Une grosse majorité des serveurs sur Internet sont sous Linux ou des dérivés de systèmes libres.
Alors comment on explique que peut-être les 99% des ordinateurs achetés aujourd'hui en France sont équipés de Microsoft, hein, pour les PC en tout cas? C'est du lobbying
Voilà, c'est totalement ça. Microsoft paye carrément les fabricants pour qu'ils installent leur système. En tout cas, ils leur vendent les systèmes à des prix tellement dérisoires que ça leur coûte quasiment rien de les préinstaller. C'est vraiment du lobbying des gros groupes qui ont de l'argent, forcément, pour forcer l'achat de leur système et vous emprisonner dans un système fermé.
Alors, est-ce que c'est juste un combat idéologique de dire je refuse de me plier à ce diktat imposé par les constructeurs de matériel et Microsoft et Bill Gates?
Vous avez la personne donc, qui est convaincue du libre et qui va tout changer pour le libre, donc du système d'exploitation jusqu'à tous les logiciels qu'il utilise. Vous avez aussi juste la personne qui n'a pas de ressources, qui a acheté son ordinateur avec un Windows, donc qui est très satisfait de Windows, mais qui, pour avoir des logiciels un peu plus performants, va passer sur des logiciels libres sans avoir à pirater ou sans avoir à dépenser de l'argent qu'elle n'a pas. Tout simplement. Donc ça va être pour des logiciels comme la suite Microsoft Office, qui est loin d'être gratuite. Vous avez, quand vous achetez un ordinateur, une version d'évaluation qui dure 2 mois, et après vous êtes avec des fichiers que vous ne pouvez plus utiliser. Vous avez LibreOffice à côté qui vous permet d'ouvrir ces
logiciels. LibreOffice,
Qui vous permet d'ouvrir ces fichiers, de les modifier, de travailler tout à fait normalement, et ça de façon totalement gratuite. Donc pourquoi s'en priver?
Moi j'en ai plein cul, mon PC m'a déçu. Y'a des baffes qui se perdent, Microsoft c'est de l'arnaque, Windows c'est de la merde. merde. Faut que je passe au Mac.
Alors vous êtes venu à cet atelier là, ce samedi du libre, pourquoi ?
Parce que j'avais deux petites choses qui ne fonctionnaient pas très bien, voilà, sous une version Linux.
Vous faites partie de la communauté alors ?
Ouais, j'ai une installation depuis quelques années.
Alors vous êtes complètement libéré du...
De Windows.
Ben c'est vrai ? Totalement.
Sauf au travail.
Ah.
Je travaille pour l'éducation nationale, donc je pense qu'à l'heure où il faut faire des économies, si tout le monde était sous Linux à l'éducation nationale, on ferait beaucoup d'économies. On paye tous les licences de logiciels tous les ans, etc.
Mais est-ce qu'il y a une réflexion à ce sujet-là dans l'éducation nationale aujourd'hui ? On préfère virer des profs, c'est-à-dire supprimer des postes, que réfléchir à ça ?
Là, la ville de Paris n'a pas du tout envie de... Alors, est-ce que c'est la pression des techniciens ? Enfin, je ne sais pas.
Vous êtes prof, c'est ça ?
Professeur des écoles.
Paris ?
À Paris.
Mais vous avez migré, vous avez basculé et vous êtes contente de...
Je suis tranquille, voilà.
Tranquille, heureuse.
Pas... Oui. Et puis, dès qu'on a un petit problème, on peut venir ici et du coup, voilà, on n'est pas seul et on n'a jamais de problème, finalement. C'est l'idée du partage, en fait, à Linux, en fait, qui est intéressante.
Partage, c'est-à-dire ?
Ben voilà, regardez le nombre de bénévoles qui sont là tous les premiers samedis du mois pour aider des gens qui ont envie d'avoir quelque chose de libre et d'économique, enfin de gratuit même. Donc ça, voilà, c'est quand même exceptionnel. C'est une communauté de personnes. C'est pas juste des personnes qui sont sur leur ordi chez eux et qui bidouillent. C'est des gens qui vraiment partagent. Ils essayent pour eux, chez eux, des versions. Une fois que c'est stable, ils les donnent à tout le monde. Voilà. Donc c'est beau.
Voilà où on se trouve. On est à la Cité des Sciences, à la Villette à Paris, le premier samedi de chaque mois. Vous avez compris, on nous le dit très bien. On se retrouve, on imagine tous ces gens derrière leur ordi, là, jour et nuit, tout palichon, s'envoyant des messages et se voyant jamais. Pas du tout. Là, c'est une communauté, entre guillemets. Il faut faire attention à ce mot dans cet univers-là. Il n'a pas forcément le sens qu'il a ailleurs. Des gens qui se retrouvent pour bidouiller, pour bricoler. Là, ça nous renvoie à d'autres moments de l'histoire. Le début de l'aviation, par exemple. Le début de l'aviation, il y a eu des bidouilleurs, il y a eu des bricoleurs. Il y a eu des gars qui ont essayé de voler avec le moteur, l'hélice, les morceaux de bois, les tissus pour tendre sur les ailes et qui ont essayé des merveilleux fous volants dans leur drôle de machine. C'était des bricolos, c'était des bidouilleurs. Et je me souviens, moi qui ai vécu déjà pas mal, chers petits amis, des bricoleurs de TSF. Des gars qui bricolaient leur TSF, qui faisaient des postes à galène, comme ça, voilà, avec un fil de cuivre, avec un machin, un truc et tout. Et hop, tout d'un coup, on entendait grésiller des sons, des paroles et des musiques. Et ça, c'était des bidouilleurs, c'était des amateurs. Mais alors, avec évidemment l'arrivée de cette technologie fabuleuse, le numérique, l'informatique, on s'est dit là vraiment les bricoleurs avec leur clé de 12 et leur gros tournevis, là c'est terminé. Eh ben non, il y a cet esprit de s'approprier les choses, de dominer ces choses, de les créer, de les recréer, de les réinventer, même si elles semblent si compliquées, si lointaines, si magiques aussi. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Voilà, c'est ça le boulot de ces gens-là, de ces réunions, de cet esprit et de cette jubilation.
Omnitux, j'ai compris, Children's Play, c'est génial pour l'âge de... Bah, c'est ça, 5, 6, 7 ans.
Alors ça, c'est adapté aux enfants, justement, c'est ça ? Vous parlez là d'éducation ?
Oui, il y a une version qui s'appelle Ubuntu. C'est adapté à l'éducation, qui va de la petite, très petite enfance jusqu'à l'université.
Alors, vous animez ce samedi du libre ?
Oui, les premiers samedis de chaque mois.
Alors, comment vous êtes rentré dans cette communauté, dans ce monde du libre, dans ce combat aussi ? C'est une passion, mais aussi, ça peut devenir un combat ou une lutte, quoi.
Oui, instruire les gens. faire passer le message que oui, que ça existe une alternative, à chacun après de choisir, mais qu'ils prennent conscience au moins que ce n'est pas une nécessité à chaque fois de payer, ou se trouver hors la loi pour utiliser des logiciels. Donc, je suis rentré là-dedans par hasard, simplement le hasard des choses, j'ai essayé, ça a marché, j'ai continué et ben voilà, comme on arrive des fois comme ça, comme on, la même façon qu'on apprend à faire de la patinette, de vélo et ainsi de suite.
Mais vous êtes informaticien ?
Ah, du tout. Je suis chef de quai, je travaille dans la logistique, je charge et décharge des camions. Donc quelque chose qui n'a rien à voir, je suis plus dans le matériel lourd fait nuit que dans l'informatique. Donc dans mon boulot, je n'ai pas accès à un ordinateur de la journée, donc c'est quelque chose complètement... Je ne devrais pas y accéder. C'est l'hasard, comme je dis, j'ai tombé, un jour j'ai eu l'occasion d'essayer un Linux. Par accident, le disque dur qui tombait en panne, qu'on ne trouvait pas facilement les disquettes de Windows à l'époque. Eh ben, j'ai mis ça, ça a marché, je suis resté petit à petit. Je suis passé de version en version, de la même façon que j'aurais passé de Windows 3.1 à 95 à 98, sauf que je suis resté dans le logiciel libre.
Ah, vous n'avez plus jamais été racketté par Bill Gates depuis plus de 10 ans
Non, même comme ça, il y arrive. Hein.
Ah.
Pour la simple raison, j'ai deux laptops.
Deux ordinateurs portables.
Deux ordinateurs
portables. Vous avez acheté donc avec un logiciel installé. Voilà.
Malheureusement, c'est beaucoup de monde est dans mon cas. Quoi. On arrive à se faire racketter par Bill Gates. Donc, des exemples comme ça, il y en a beaucoup.
Au revoir, monsieur Mahmoud.
On va laisser la salle vide.
On va laisser la salle vide. Il y a encore le grand Yo-Boy et le petit Bruno, normalement.
Ah oui, d'accord. Oui, comme vous avez laissé un souvenir, quoi.
C'est notre vigile préféré.
Alors, ça y est, l'atelier
toujours
souriant ferme,
et sympathique, hein. Alors même qu'on est en retard à chaque fois. Merci, au revoir. Donc moi, je suis Aurélien Coudert, je suis donc président de Paris Nux et je participe à un certain nombre d'événements libres, dont les premiers samedis du libre, qui ont lieu ici tous les mois. Paris Nux, c'est le groupe d'utilisateurs parisiens qui essaye de regrouper un certain nombre d'initiatives de logiciels libres sur Paris, sachant que comme Paris, c'est très grand, il y a beaucoup d'associations dédiées à un système ou un logiciel particulier. Donc on se retrouve avec des associations comme Ubuntu FR ou Debian France qui sont spécialisées pour une version particulière. Et Paris Nux essaye d'être, typiquement au niveau de la Cité des Sciences et de l'Industrie, d'être l'interlocuteur qui va centraliser en fait les besoins d'un peu toutes les associations.
Alors c'est une install party hein, qui se termine là.
C'est pas vraiment une install party, ça c'est un atelier qu'on a tous les mois, qui est un atelier d'aide, que ce soit installation, découverte, résolution de problèmes.
Alors l'idée c'est quand même de lutter ou de se libérer de l'hégémonie de Microsoft et de Windows. Non ?
Alors on peut dire ça comme ça, disons qu'un des plus gros combats qui reste, c'est la préinstallation, c'est-à-dire de pouvoir trouver des machines avec des logiciels libres déjà installés. Puisque finalement, toute une partie du travail qu'on fait là ces premiers samedis, c'est le travail que les constructeurs d'ordinateurs n'ont pas fait, c'est-à-dire de proposer une machine avec un système libre préinstallé. Actuellement, on n'a pas le choix parce que Microsoft a fait des pressions énormes sur les constructeurs pour ne pas proposer d'autres solutions, parce que c'est vraiment leur business. Windows et Office, c'est les deux sections sur lesquelles ils se font de l'argent. Le reste n'est pas franchement profitable. Et pour eux, c'est abus de position dominante, en fait. Ça fait des années que quasiment tous les ordinateurs sont livrés avec Windows et ils ont un moyen de pression fou sur les constructeurs en disant qu'on appelle une licence par série, c'est-à-dire qu'il vous fait un prix qui est très avantageux si Windows est installé sur tous les ordinateurs d'une série. Et si jamais vous décidez d'installer un autre système, ne serait-ce que sur une machine que vous vendez de cette série, vous allez payer les licences à l'unité et ça sera beaucoup plus cher. C'est le type d'accords commerciaux, entre guillemets, accords, qui font que les constructeurs n'ont pas toujours le choix d'installer ce qu'ils veulent. Donc ils sont obligés soit de faire des séries distinctes pour les ordinateurs sur lesquels ils veulent installer les logiciels libres, en ne sachant pas forcément la quantité qu'ils arriveront à en vendre. Donc il y a vraiment des pressions assez fortes là-dessus, parce que les marges sur la partie matérielle sont très très faibles actuellement.
Et cet abus de position dominante qui se traduit par la vente liée, est-ce que c'est illégal en France ?
En France, c'est illégal et chaque acheteur qui s'est retourné vers son constructeur et a demandé le remboursement a pris un refus et a pris la peine de faire un procès, a gagné son procès. Et notamment sur les deux dernières années où il y a un certain nombre de jurisprudences dans ce sens-là. Donc même si on sait maintenant que les options existent, puisque typiquement c'est ce que fait déjà Microsoft avec Office, c'est-à-dire qu'il préinstalle en fait Office mais sans l'activer, où vous devez acheter la clé d'activation. Donc on pourrait très bien imaginer qu'il y aurait la même chose pour Windows, où vous achèteriez votre bécane sans payer Windows et vous auriez une clé ensuite à acheter pour l'activer.
Donc les solutions techniques, elles existent et elles ne sont pas compliquées à mettre en œuvre. Même Microsoft les pratique déjà. En revanche, ils n'ont pas du tout envie parce que c'est sûr que si vous avez un ordinateur qui vous est fourni avec deux systèmes qui fonctionnent, un qui vous pouvez garder gratuitement et l'autre que vous devez payer 100 €, vous vous poserez deux fois la question, forcément.
Voilà avec quoi sont équipés plus de 95% des ordinateurs dans le monde. Windows, un système d'exploitation fabriqué par Microsoft.
France 2, 6 novembre 1999.
Depuis 1998, Windows contient un logiciel qui permet de surfer sur Internet. Du coup, les concurrents comme Netscape, qui fabriquent eux aussi des navigateurs, se sentent injustement tenus à l'écart de la compétition. Ils ont porté plainte. Après plus d'un an de procédure, hier, ils ont obtenu gain de cause. La justice américaine accuse la firme de Bill Gates de concurrence déloyale.
Microsoft est en situation de monopole. La firme est engagée dans des pratiques anticoncurrentielles qui portent atteinte à l'innovation et à la liberté du choix du consommateur.
Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'a la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se touchent et les buses qui abusent, les polices qui pâlissent, le DVD fatigué, le scanner cassé nerf, le menu pomme dans les pommes, c'est des roms, c'est tout comme la mémoire sans espoir, les options en options, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique, ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Comme j'ai un bug dans le système, je téléphone au réparateur, il me demande
quel est votre problème. Je vous écoute, j'ai un quart d'heure.
Je lui dis soyez pas si pressé et laissez-moi vous expliquer. J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki. J'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelles, l'USB constipé. J'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, la disquette qui caquette, l'utilitaire qu'a des verres, les icônes qui déconnent, le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, le moniteur et ta sœur. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique, ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Ah mon Dieu que c'est affolant toute cette informatique, ah mon Dieu que c'est affolant, mais qu'est-ce qu'on ferait sans.
Alors là on a quitté le 19e arrondissement et la Cité des Sciences et là on va aller un peu plus dans le dur chez ceux qu'on appelle les hackers. Alors bon, c'est pas l'image véhiculée par les films à sensation, non, c'est pas des cyberdélinquants ou cybercriminels, non, non, c'est des bidouilleurs, donc des passionnés d'informatique et d'électronique aussi, qui sont capables de transformer, de bidouiller des ordinateurs. Alors effectivement, on peut les appeler des activistes, on peut les appeler des militants, des activistes d'une informatique au service du plus grand nombre, un Internet citoyen. On a entendu parler, par exemple, les indignés espagnols d'une démocratie 2.0, d'une démocratie horizontale qui pourrait être véhiculée ou en tout cas aidée par un Internet citoyen. Donc les revendications, c'est aller vers l'open source, donc des logiciels plus libres, on va dire. Open data, des informations, des données qui seraient accessibles à tous, hein, donc des données, des informations qui seraient disponibles, qui seraient consultables par tous, hein, bon, dans la lignée de ce que propose Wikileaks, ce qui est en relation aussi avec la question de la neutralité des réseaux. Est-ce que les fournisseurs d'accès Internet, les fameux FAI, hein, chez qui on paye notre abonnement ADSL ou autre, sont vraiment transparents ou eux-mêmes utilisent les tuyaux filtres les informations et sont capables du coup de biaiser justement l'information et de nuire à cette démocratie du savoir, quoi, à ce bien commun que serait la connaissance numérique.
Ici on est au Loop. Moi c'est Kérosène, j'ai 30 ans et je suis dans un hackerspace, c'est-à-dire un espace où des informaticiens, des passionnés d'électronique et des geeks de tout poil finalement se réunissent pour échanger, travailler. Ça part de l'idée que les hackers ont besoin d'espaces ouverts, 24 heures sur 24 de préférence, où ils vont pouvoir se rencontrer, pouvoir s'aider dans leurs différents projets, monter des projets en commun, trouver les personnes complémentaires qui vont pouvoir débloquer une situation. Et puis ensemble, on a un peu plus de poids ben, pour prôner le libre, le logiciel libre en particulier, et la mentalité hacker. Le fait d'être curieux, d'aller chercher à comprendre la technologie, de pouvoir la démystifier et la passer aux autres.
Voilà. On est au Loop Laboratoire, ouvert ou pas, L-O-O-P. Là, c'est ouvert et on est reçu chez les hackers. Alors, hackers, oulolo, là, les hackers, c'est les pirates qui font des trucs et qui tassent des machins et qui bloquent des banques et des services de paiement et qui vengent Julian Assange et qui promettent de faire sauter Facebook dans quelques semaines maintenant. Il y a ce côté-là étonnant, les Anonymous, étonnant, curieux, qu'est-ce que c'est, qui c'est, en faites-vous partie? Et c'est un peu comme les bandits, il y a les bandits méchants et puis il y a les bandits gentils et il y a les bandits de grand chemin et puis il y a les Robins des Bois parmi ces bidouilleurs, ces bricoleurs et ces nouveaux acteurs simplement. Et oui, la révolution informatique engendre de nouveaux personnages, de nouvelles figures, comme ça a dû être le cas au temps de la découverte de l'imprimerie, comme ça a été le cas probablement au temps où les chemins de fer se sont développés sur la planète. Oui, c'est de cette importance-là.
Alors ici, c'est un espace autogéré ?
Oui. L'espace en lui-même, le loop est autogéré. Et il se trouve dans un squat qui est lui-même aussi autogéré. Donc c'est une structure qui nous correspond, on s'inscrit dedans de la même façon en fait.
C'est magnifique cet endroit. Alors bon, il y a une verrière splendide.
Voilà, un puits de lumière, c'est un bâtiment Eiffel. Nous, là, sur l'étage, on a 235 mètres carrés, je pense.
Il y a des ordinateurs partout, qui sont en état
soit
et d'autres.
Soit prêts à être utilisés, soit prêts à être recyclés. Que des ordinateurs de récupération, c'est des gens qui ne s'en servent plus, qui les laissent sur le trottoir et que les gens, en venant ici, ramassent. Ou que des gens qui connaissent l'endroit proposent à des entreprises, au lieu de jeter tout ce matériel là, de nous en faire profiter.
Il y a de l'outillage aussi, il y a des oscilloscopes, il y a du matériel informatique, enfin électronique, quoi, c'est ça, pour pouvoir réparer tout ça.
Faire à souder, tout ce dont on peut avoir besoin en tant qu'informaticien, électronicien, pour créer. Il y a d'autres endroits un peu plus stables où ils ont de l'équipement plus lourd et qui peuvent faire des circuits imprimés ou avoir des découpeuses laser, de l'équipement qu'on ne veut pas bouger tous les 6 mois.
Vous bougez quoi, du coup
Nous on bouge, le squat c'est forcément éphémère, donc tous les 6-8 mois environ, on change de lieu. On passe une petite période en mode pas ouvert. C'est l'acronyme, parce que le loop, donc laboratoire ouvert ou pas, donc peut passer 2-3 semaines entre deux lieux à préparer ou à se reposer, parce que ça peut être fatigant quand même. Le mercredi, c'est notre réunion hebdomadaire sociale, où on invite chacun à venir discuter, faire un petit peu la fête.
Alors là, je vois qu'il y a un magnifique Minitel. Et de l'archéologie, quoi, vous faites de l'archéologie informatique.
Oui, mais ça peut être aussi simplement du détournement. C'est-à-dire que ça, c'est un mini-ordinateur qui a de la connectique en arrière. Donc si on ouvre en arrière, on va pouvoir brancher un ordinateur dessus et prendre le contrôle de l'ordinateur avec le Minitel. Ça peut servir de terminal, en fait.
Alors, il y a de l'idéologie derrière la technologie. Donc, vous faites quoi ici ?
Ici, l'idéologie, ça serait la transparence et le partage de connaissances. Toute technologie doit être connue. On doit savoir comment elle marche avant de l'utiliser, pour savoir si elle est sûre et si elle correspond exactement aux besoins qu'on en a et uniquement à ces besoins. Ça fait que nous, on va aider les gens, les conseiller dans les choix qu'ils vont faire quand ils viennent nous demander conseil. On va les aiguiller forcément vers du Linux plutôt que du Windows. On leur expliquer comment ça marche, comment ils vont ensuite se passer de nous. On essaye de redonner et d'autonomiser les gens face à la technologie.
Mais alors, qui se réunit ici? Vous êtes des informaticiens, vous êtes des bidouilleurs, vous êtes des professionnels de l'informatique?
Tout ça.
Il y a une idée d'éducation populaire à l'informatique dans ce lieu, quoi.
Complètement. C'est un de nos mandats, une des choses qu'on fait, c'est d'expliquer, de démystifier la technologie. On a eu hier soir un des membres qui a fait une conférence sur le réseau à partir de zéro. Qu'est-ce que c'est un serveur web et des paquets, des requêtes et tout ce genre de choses qui transitent sur le réseau et qui font qu'Internet marche.
Nous sommes Anonymous. Salutations citoyens du monde. Les attaques par déni de service sur nos serveurs IRC ne servent à rien et ne retarderont pas notre révolution. Des légions d'anons ont trouvé d'autres méthodes de communication. Ces attaques ne nous feront pas taire, alors que nous poursuivons notre lutte pour libérer l'humanité de l'oppression. WikiLeaks est constamment la cible d'attaques de déni de service, et Julian Assange a demandé une enquête sur la question, mais pourtant rien n'a été fait légalement. Nous sommes en contact avec WikiLeaks, comme nous sommes tous les deux la cible de ces attaques. Puisque les gouvernements emprisonnant les gens qui mènent de telles actions sur les serveurs ne feront rien, Anonymous va une nouvelle fois intervenir et défendre les faibles de l'oppression. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Attendez-vous à nous.
Qu'est-ce que le web 2.0 ?
Le web 2.0, c'est tout simplement l'Internet d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce sur quoi surfent tous les Français, moi comme les autres.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire Internet d'aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire
Alors, on a beaucoup entendu parler là, dernièrement d'Anonymous quand ils ont pris parti pour défendre les activités de WikiLeaks.
Le mouvement des Anonymous, c'est d'abord et avant tout des internautes. Ce qu'ils font, c'est utiliser un outil qui automatise des choses que des hackers ont découvertes. Ce qu'ils font depuis l'affaire de WikiLeaks existe depuis 5 ans déjà. Ce qu'on appelle l'activisme, sauf que c'était vraiment très marginal. Sauf que là, PayPal, Visa et Mastercard dans la journée, c'est un beau score. S'il y a 10 000 personnes qui arrivent en même temps, non, on n'arrive pas à les servir et du coup on baisse le rideau. Et ça, pour l'instant, personne ne sait contrer ça, donc on en profite. Ils en profitent. Les Anonymous, parce que c'est ça aussi le principe. Anonymous, c'est tout le monde, c'est personne, on sait pas qui c'est. C'est juste on est au début du droit de manifestation sur Internet. Il va falloir qu'on se batte pour ça maintenant au niveau légal. Donc ça risque de donner ensuite des idées à d'autres gens qui vont mener des actions. Soit légales, soit
désobéissance civile,
ou qui pourraient être ensuite qualifiés de terroristes, par exemple, qui soient criminalisés. Mais pour l'instant, le mouvement Anonymous, c'est juste des manifestants. Et de commencer à les poursuivre, à essayer de les mettre en prison, c'est une grosse, grosse dérive. Il va falloir se battre contre ça, par contre.
De nouveaux combats, de nouvelles idées qui se développent et qui font parler d'elles. Et surtout, là, pour l'essentiel, avec ces militants, disons, voilà, on va engager ce mot-là, l'idée de démystifier la technologie. C'est vrai que c'est très intimidant. C'est vrai que la technologie est entourée de langage, est entourée évidemment d'intérêts commerciaux, industriels, de toutes sortes, et qu'il est tout à fait valeureux d'essayer de démystifier, de partager les connaissances et d'essayer de faire comprendre à chacun, au Pékin normal dont je suis, comment ça marche. Alors là, on est avec François Poulain, donc dans ce loop, lieu ouvert ou pas, qui nous rassure et qui nous explique et qui nous éclaire sur ces nouveaux phénomènes qui sont souvent présentés de façon inquiétante ou pas.
Alors on est toujours au loop.
Alors il y a une conférence là, hein, enfin une rencontre avec Benjamin Bayard qui est en train de se dérouler. Alors c'est de la vulgarisation ou c'est une conférence très technique? Il y a plusieurs niveaux d'écoute, de compréhension de ce qui est en train de se dire. Qu'est-ce qui se passe là?
Oui, en fait, Benjamin était invité pour une conférence où il invite les gens à lui poser des questions. Et du coup, ouais, on est dans une vraie logique, je dirais, d'éducation populaire, de transfert de compétences sur des sujets plus ou moins techniques. Alors, y a des sujets de très haut niveau technique, hein, qui s'intéressent à l'ingénierie des réseaux, à comment ça fonctionne, la transmission entre les différents nœuds du réseau, etc. Puis aussi des trucs plus génériques, qui touchent un peu aux enjeux sociétaux d'Internet. Par exemple, la question de comment ça a fonctionné l'extinction du réseau en Égypte, comment ça a pu être réparé. Il faut savoir que Benjamin Bayard est président d'un fournisseur d'accès à Internet associatif qui s'appelle FDN. Et il expliquait par exemple que en distribuant un bon vieux numéro de téléphone classique, il a permis à des gens d'Iran, d'Irak, d'Égypte et d'ailleurs d'accéder à de l'Internet par le biais du réseau téléphonique en se connectant par exemple sur les serveurs du fournisseur FDN par exemple. Donc moi je suis trésorier de l'April. L'April c'est l'association qui fait la promotion et la défense du logiciel libre. Donc c'est une association qui existe depuis 96, en fait les 15 ans cette année. Ça concerne aller voir le public, faire des conférences, être présent à des événements grand public. Par exemple le week-end dernier j'étais à la braderie de Lille, on était présent plusieurs années à la fête de l'UMA, des choses comme ça, en termes de, on va dire, grand public, promotion du logiciel libre auprès des publics. Et un autre champ de communication qu'on a, c'est auprès du monde politique. Donc on va sensibiliser le monde politique, les élus, les responsables de collectivités, pour leur faire comprendre que le logiciel libre, c'est un enjeu important, que ça représente une activité économique en France. On parle de plusieurs milliards d'euros d'activités autour du logiciel libre. Tout ça, c'est un bien commun, donc il faut le promouvoir, il faut le protéger.
Alors ce serait quoi l'idéal pour un, comme ça, dans un monde des machines qui seraient libérées de Microsoft? On prône la liberté, mais la liberté de quoi? La liberté d'entreprendre ou la liberté de partager vraiment la connaissance et le savoir?
Les deux ensemble, hein, c'est pas antinomique. Lorsque vous avez accès à un logiciel propriétaire très classique, on va prendre un logiciel d'Adobe pour pas prendre celui de Microsoft, en général vous avez le droit de quoi faire. Vous avez le droit de l'exécuter, le logiciel, donc de l'utiliser, mais dans certaines conditions. Il y a des logiciels que vous n'avez pas le droit d'utiliser si vous êtes iranien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On décide que parce que vous êtes né dans un pays, vous n'avez pas le droit d'utiliser tel logiciel, etc. On exige de vous, par exemple, que vous l'utilisiez sur une seule machine. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser sur d'autres machines. Le logiciel libre, il se met vraiment en situation opposée par rapport à ça. C'est-à-dire que quand vous récupérez un logiciel libre, vous avez le droit de l'utiliser pour tous les usages. Vous avez le droit de l'utiliser sur toutes les machines que vous voulez. Vous avez le droit de l'utiliser à but commercial ou non, on n'a pas de position là-dessus. Vous avez le droit de l'utiliser quel que soit votre pays d'origine, etc. Il n'y a aucune restriction à l'usage d'un logiciel libre. Deuxième liberté qui est fondamentale, c'est que vous avez la possibilité d'étudier le logiciel. Pour avoir la possibilité d'étudier le logiciel, il faut avoir accès à la recette qui constitue le logiciel. On appelle ça le code source. Ça explique une des raisons que les entreprises se sont très très bien appropriées le logiciel libre. Et quand on arrive avec du logiciel libre et qu'on dit aux gens faites-en ce que vous voulez, vous pouvez l'adapter à vos besoins, le modifier, etc. Et le tout, un coût généralement nul. Forcément, les entreprises se sont très très bien approprié ça parce que ça rentrait logiquement dans leur fonctionnement. Le problème, c'est que c'est pas la situation du grand public. Alors c'est à nous d'œuvrer pour expliquer aux gens qu'on est là pour œuvrer pour leur émancipation, partage de la connaissance, et de leur faire comprendre qu'ils ont un intérêt évident en fait à utiliser du logiciel libre pour leurs besoins.
Donc à aller dans les rencontres, les install parties et les différentes rencontres qui se passent un peu partout en France et quasiment tous les mois à Paris notamment, quoi.
Oui, voilà, ouais, par exemple. Ça, c'est un bel exemple. Il y en a partout en France. Et c'est souvent avant tout des associations qui recensent, on va dire, des passionnés, un peu technophiles, etc. Mais qui régulièrement font des événements, on appelle des install parties, où ils sont disponibles pour gratuitement pour assister les gens dans une installation de logiciel libre, dans l'utilisation de logiciel libre. Ça, c'est une vraie démarche, on va dire, d'éducation populaire qui est faite autour du logiciel libre.
Merci à tous, merci à François Poulain, Jérémy Nestel, Benjamin Bayard. C'était un reportage d'Antoine Chao. Vous pouvez vous rendre le premier samedi de chaque mois à Paris au samedi du libre pour vous renseigner et installer des logiciels libres. Et puis, je vous rappelle, une pétition contre le racketiciel, ces logiciels vendus de force avec les ordinateurs, est assignée sur non.o.racketiciel.info. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, et sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Gaël Braouzek. C'est Bertrand Chometon et Franck Adhérer qui ont réalisé cette émission, modeste, géniale, il faut l'avouer, assisté de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. Quant à lui, attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.